Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Merci. Donc, pour ceux que je ne connais pas, je m'appelle Antoine et je suis en formation dans une faculté de théologie à Aix-en-Provence, la faculté Jean Calvin, et en parallèle, je découvre le ministère pastoral dans une église, une jeune église dans la périphérie de Grenoble. Voilà, je suis content d'être parmi vous ce matin une nouvelle fois et je vous remercie pour votre accueil. Bon, si vous voulez savoir la suite de l'histoire, je vous invite à venir me voir à la fin de ce temps de culte. On pourra en discuter si vous voulez. J'ai pas prévu d'en parler tout de suite. Mais n'hésitez pas. C'est une manière dont Dieu a montré sa fidélité aussi et je suis content de raconter comment il a fait œuvre de protection pour ma vie. Donc, aucun problème, n'hésitez pas. On a beaucoup parlé de fidélité ce matin et de doute, parfois, quand les circonstances ne sont pas favorables. Et ce à quoi peut conduire le doute concernant les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu, c'est la peur. Parfois, on a peur. Pourquoi on a peur? Ben, vous avez sûrement tous déjà traversé des situations de peur. Parfois, on est en haut d'un rocher, d'un mur au-dessus de l'eau. Un ami nous invite à sauter dans l'eau, sauter du plongeoir. Et le mur est assez haut. Et on a peur. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Parfois, on nous invite à marcher sur un fil tendu entre deux arbres. On a du mal à le faire, on a peur de tomber. Il y a plein de circonstances dans lesquelles on peut avoir peur. Et parfois, en tant que chrétien, aussi, on a peur. Pourquoi on a peur en tant que chrétien? Ben, comme on l'a rappelé ce matin, en tant que chrétien, on est bénéficiaire des promesses de Dieu, de ses soins, de sa providence. Et parfois, on traverse des situations difficiles et on se pose la question « Mais où es-tu, Seigneur ? Que fais-tu dans cette situation ? Tu me dis que tu prends soin de moi, ça fait partie des promesses de ta parole, mais là, je ne te vois pas à l'œuvre. » Et parfois, on est tellement déçu par la vie, tellement déçu par de mauvaises expériences, qu'on arrive à la conclusion que ben, si Dieu existe vraiment, peut-être qu'il m'a oublié, il nous a oubliés. Et donc peut-être que Dieu n'existe pas. Et c'est peut-être le cas de certains d'entre nous ce matin. On arrive à cette conclusion-là. Et dans l'histoire que nous allons lire, on découvre que le mari de Miss Univers, Abraham, considéré lui aussi comme un modèle de foi, eh ben lui aussi, il a peur. Alors je vous propose qu'on creuse un peu de quoi Abraham a peur, mais surtout qu'on regarde que fait Dieu en réponse à cette peur et comment Abraham réagit à l'action de Dieu. Comment gérer nos peurs et comment réagir quand on constate que notre foi vacille? Eh bien, l'histoire qu'on va lire en Genèse chapitre 15 va nous aider à y répondre. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles si vous êtes venu avec une Bible. Sinon je crois que le texte va s'afficher. En Genèse, le premier livre de la Bible est au chapitre 15. Genèse chapitre 15, je lis dans la version second 21. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Dieu, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans le pays rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » Jusqu'ici notre lecture, et on va encore prier. Merci notre Dieu pour ta parole vivante et efficace, qui nous parle encore aujourd'hui, qui est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous reprendre parfois. Merci parce que, comme tu le promets, elle ne revient pas à toi sans effet. Alors je te prie maintenant, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre cœur, que tu ouvres les oreilles de notre cœur afin que nous comprenions ta parole, que nous sachions comment elle s'applique dans notre vie et qu'elle fasse ce travail de nous encourager, de nous reprendre, de nous exhorter comme tu veux le faire. Merci, Seigneur, pour cette parole et nous voulons nous mettre à ton écoute maintenant. Amen. Abraham a peur. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit « Abraham, n'aie pas peur. » Dieu rassure Abraham. Pourquoi ? De quoi a-t-il peur ? Ben, juste avant, si on lit les chapitres d'avant, il vient de vivre une expérience particulièrement forte en émotion. Il a dû faire la guerre contre plusieurs rois. Il a mis la vie de beaucoup d'hommes en danger. Son neveu Lot a été fait prisonnier et le roi de Sodome a tenté des négociations avec lui. Donc on voit qu'on est dans un climat très tendu. Abraham s'en sort bien, il a la victoire, il réussit à délivrer Lot, mais il sait que rien n'est gagné. Il sait que des revanches sont possibles, que des batailles de territoire risquent encore d'arriver à nouveau. Donc Abraham a peur, et c'est légitime cette peur. Mais Dieu le rassure, lui assure qu'il sera son bouclier, qu'il saura le protéger, et qui lui donnera une grande récompense, parce que, juste avant, Abraham a refusé la récompense proposée par le roi de Sodome, et peut-être qu'il se pose la question, « Dieu m'a envoyé dans ce pays, il m'a promis de me le donner en héritage, de me bénir, de faire de moi une grande nation. » Ça fait plusieurs années qu'il m'a dit ça. Et en attendant, je ne vois aucune de ses promesses s'accomplir. Aucune. Est-ce que Dieu m'aurait oublié ? Et regardez la réaction d'Abraham, juste après. Tu me dis que tu me protèges et que ma récompense sera grande? Ah bon? Est-ce que ce sera des paroles en l'air comme les promesses que tu m'as déjà faites dans le passé, tu te souviens? Il y a une dizaine d'années, les promesses sur la descendance, tout ça. Je commence à vieillir sérieusement. Ma femme Sarah aussi. Et on n'a toujours pas d'enfant. Vous voyez, on est devant un Abraham qui a peur, qui a bien connaissance des paroles et des promesses de Dieu, mais qui commence à douter de leur réel accomplissement. Et nous, je suggère qu'on est parfois exactement dans la même situation. Je sais que Dieu prend soin de moi, il me l'affirme dans sa parole. Ma vie compte pour lui. Je n'ai pas à m'inquiéter du manger et du boire, du vêtement. Mais là, je suis malade, ou je viens de perdre mon travail, ou je galère à boucler les fins de mois. Je commence à vieillir, je vois ma santé ou mon moral se dégrader, ça fait 10, 20, 30 ans que je ne m'en sors pas. Et je me pose des questions sur l'action de Dieu. Que fait-il? Que fait-il? Ou je sais qu'en devenant chrétien, Dieu m'a libéré de l'esclavage du péché. Mais là, je suis toujours en train de déprimer parce que ça fait des années et des années que je lutte contre ce péché et j'en vois pas l'issue. Que fait Dieu? Est-ce qu'il a vraiment la puissance d'agir dans cette situation? Où j'ai refusé la récompense des hommes, comme Abraham. J'ai refusé une vie facile. Mais j'ai peur, parce que je vois pas la récompense de Dieu. J'ai refusé de me mettre en couple avec cette fille qui m'a fait des avances, parce qu'elle n'était pas chrétienne. Mais là, je suis toujours célibataire. J'ai refusé une grande carrière pour devenir missionnaire. Mais je vis des difficultés financières, relationnelles, familiales en ce moment, et je me demande où est la récompense de Dieu pour ça. Où j'ai fait tout mon possible pour éduquer mes enfants selon Dieu, pour qu'ils le connaissent. Mais là j'ai peur, parce que je vois qu'ils ne sont pas en train de suivre Christ. Et ça me fait du souci, et je me demande ce que Dieu est en train de faire. Ou encore, je suis tellement déçu par la vie, par mon histoire, par l'endroit où Dieu m'a placé, que je me pose la question de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, comment ça se fait qu'il me laisse dans cette situation et qu'il ait permis que ces événements arrivent dans mon passé? Donc on est tous peut-être dans l'une de ces situations ou dans une autre où on a peur. Mais comment réagit Dieu à ces interrogations tout à fait légitimes et justifiées d'Abraham? Eh bien, il va faire trois choses, et nous allons parcourir ces trois choses maintenant. La première, c'est qu'il va réaffirmer ses promesses, et il va les détailler un peu plus. Ensuite, il va donner des aides visuelles à Abraham pour fortifier sa foi. Et enfin, il va faire une alliance très spéciale avec lui. Alors premièrement, Dieu va réaffirmer ses promesses. Regardez au verset 4. Il lui dit que ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier, Abraham, mais bien ton fils de sang, ton fils biologique, celui qui naîtra réellement de toi. Donc il réaffirme cette promesse de descendance. Verset 7, Dieu dit à Abraham, je vais te donner ce pays en possession, le pays de Canaan. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, et c'est moi qui te donnerai ce pays. Cette promesse aussi va s'accomplir. Et Dieu va préciser un peu plus loin cette promesse en disant qu'il faut d'abord que ses descendants soient esclaves dans un autre pays pendant 400 ans avant qu'ils prennent possession du pays. Donc patience, Abraham, tu ne verras pas l'accomplissement de toutes les promesses tout de suite, mais elles vont bel et bien s'accomplir. J'ai déjà tout prévu. Je connais et maîtrise le cours de l'histoire. Abraham, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et imaginez les premiers lecteurs de ce texte. Le peuple d'Israël dans le désert, avant d'entrer dans le pays promis. Ça a dû leur donner tellement de courage de savoir que Canaan était pour eux et que tout ce qui s'était passé en Égypte n'a jamais été hors du contrôle de Dieu. Et rien que ça, ça doit tellement nous encourager. Dieu est au contrôle de l'histoire de l'humanité. Rien ne lui échappe. Et il dirige les événements du monde d'une manière parfaite et souveraine. Et ça, ça veut dire que rien dans ma vie, rien dans mes circonstances, rien dans mon travail, rien dans ma santé ne lui échappe. C'est tellement rassurant de savoir ça. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il va aussi donner à Abraham des aides visuelles pour fortifier sa foi. Il va le faire sortir de sa tente en pleine nuit et lever les yeux au ciel. Alors je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez déjà faite lors d'un bivouac ou en camping ou une nuit à la belle étoile, de lever les yeux au ciel en pleine nuit. Mais c'est juste incroyable. Et Dieu va dire à Abraham, aujourd'hui tu ne vois pas ma promesse de te donner une descendance s'accomplir, mais regarde le ciel, essaie de compter les étoiles. Eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse que ça. De voir cela, ça a dû tellement aider Abraham à faire confiance à Dieu. Et regardez, au verset 6, c'est exactement ce qu'il se passe. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Ces paroles et cette vision du ciel vont aider Abraham à faire confiance à Dieu. Et en retour, Dieu va considérer Abraham comme juste, sur la base de cette foi, de cette confiance. Alors là, on peut tout de suite s'arrêter et se poser la question, est-ce que c'est vraiment juste de considérer quelqu'un comme juste sur la base de sa confiance plutôt que sur la base de ses actes? Parce que si on regarde les actes d'Abraham, ils ne sont pas vraiment toujours très justes. Deux chapitres plus tôt, il va mentir pour sauver sa vie. Un chapitre plus tard, il va coucher avec la servante de sa femme pour trouver une solution à ce problème de descendance, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, est-ce que ce que Dieu fait, c'est réellement juste? C'est une bonne question, mais il va nous falloir un peu de patience avant d'y répondre, parce que c'est la deuxième aide visuelle qui va nous permettre d'y répondre. Mais en tout cas, on découvre là une réalité absolument formidable. Dieu considère comme justice la foi d'Abraham, et on verra par la suite qu'il applique ce même principe à nous aussi. Et ce principe, c'est un principe qui change tout. Quand on commence à douter, quand on commence à avoir de la culpabilité, à croire des mensonges concernant notre statut devant Dieu, parce qu'on a péché, ou parce qu'on se trouve très peu performant sur le plan spirituel, ou parce qu'on ne porte pas le fruit qu'on devrait porter en tant que chrétien, eh bien, Dieu là nous dit non. Non, la seule chose qui compte, c'est qu'on croit en les promesses de Dieu. C'est ça et seulement ça qui compte comme justice devant Dieu. Le reste en découle, mais ça change rien à notre statut devant lui. Et ça, c'est un combat quotidien dans la vie du chrétien. C'est un combat quotidien et je reconnais que c'est un combat pour moi. Alors on passe maintenant à la deuxième aide visuelle. Et en fait, cette deuxième aide visuelle, c'est plus qu'une aide visuelle, c'est une alliance que Dieu fait avec Abraham. Regardez, au verset 18, l'auteur nous précise que ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Mais qu'est-ce que c'est que ce rite bizarre que Dieu demande de faire à Abraham? Alors Dieu demande à Abraham de prendre des animaux, de les couper en deux. Alors, dans quel sens, je ne sais pas, si c'est verticalement, horizontalement, et de poser chaque moitié l'une en face de l'autre pour faire une sorte de chemin entre ces animaux coupés en deux. C'était ce qu'on faisait à l'époque pour faire une alliance entre deux personnes, deux peuples ou deux villes, par exemple. Et les deux membres de l'alliance devaient passer entre les animaux coupés, ce qui signifiait, si je ne respecte pas ma partie du contrat, eh bien qu'il me soit fait comme l'un de ces animaux. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu pose les clauses du contrat. Je vais te donner une descendance et un pays, et je te promets que je tiendrai ma parole. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il passe entre les animaux pour dire, je mets ma vie en jeu pour te garantir que j'accomplirai bel et bien mes promesses. Mais qu'est-ce qui cloche ici ? Eh bien, ce qui cloche, c'est que seul Dieu passe entre les animaux. Et ça, c'est pas habituel, mais c'est volontaire. Parce que par cet acte d'alliance, Dieu va montrer à Abraham une chose. Il va lui dire que l'accomplissement de ses promesses ne dépendront pas d'Abraham. Dieu va dire, l'accomplissement de mes promesses ne dépendront que de moi. Et si tu ne respectes pas notre alliance, Abraham, ce n'est pas toi, mais moi qui en paierai les conséquences. Imaginez ce couple qui se prépare à se marier. Ils sont tous les deux stressés à l'idée de passer devant le maire et de signer le fameux contrat qui va les lier pour la vie. Ils sont stressés de se faire des vœux qui vont les engager à respecter leur alliance. Et la fiancée est particulièrement stressée. Elle se dit, j'ai peur de m'engager parce que j'ai pas confiance en moi. Je sais que j'ai pas les ressources pour respecter notre alliance et me comporter comme une épouse parfaite. Et là, le grand jour arrive. Les fiancés passent devant le maire qui lit les articles de loi. Et au moment où la jeune femme s'approche, s'apprête à signer, le marié l'arrête. Non, tu n'as pas besoin de signer. Je vais m'engager moi seul à respecter le contrat. Et tu auras beau ne pas toujours respecter notre alliance, moi je serai toujours fidèle et prêt à subir les conséquences de tes actes. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec Abraham ici. Il s'engage lui seul. Parce qu'il sait qu'Abraham ne saura pas toujours respecter cette alliance. Et Dieu aime tellement Abraham, et il aime tellement l'humanité, et il veut tellement bénir le monde, qu'il préfère assumer pleinement les conséquences d'une alliance non respectée au prix de sa propre vie, pour que ses promesses s'accomplissent, coûte que coûte. Mais alors que nous dit la suite de l'histoire ? Eh bien, elle nous montre un Abraham qui ne respecte pas toujours l'alliance. Et elle nous montre une descendance, le peuple d'Israël, qui, elle aussi, ne respecte pas toujours l'alliance de Dieu. Alors pour que ses promesses s'accomplissent, Dieu va aller jusqu'au bout de l'engagement qu'il a pris ce jour-là. Et environ 2000 ans plus tard, Dieu va venir sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Et en venant sur terre, Jésus va accomplir deux choses. Il va accomplir ce rite d'alliance, et il va accomplir les promesses de cette alliance. Jésus accomplit ce rite d'alliance. Comment il le fait ? En subissant les conséquences de la désobéissance des hommes et en s'offrant en sacrifice, comme l'un des animaux coupés. Il a été torturé, il a été crucifié, il a été tué, comme un agneau qu'on offre en sacrifice, et en le faisant, il accomplit ce rite de Genèse chapitre 15. Et Jésus a accompli aussi les promesses de cette alliance. Parce que même si la suite de l'histoire nous montre un premier accomplissement partiel de ces promesses, on va voir par exemple qu'Isaac et Sarah vont avoir un enfant, que le territoire de Canaan va devenir leur propriété partiellement. Eh bien, l'accomplissement ultime et parfait de cette promesse d'une grande récompense, d'un pays, d'une descendance, se trouve en Jésus. Et on n'a pas vraiment le temps de voir ça en détail, mais si vous voulez creuser cette question, on voit comment Jésus accomplit toutes ces promesses faites à Abraham en Romains chapitre 4. Jésus va nous montrer, Romains 4 va nous montrer comment Abraham devient le père de tous les croyants. Il va nous montrer qu'en Christ, c'est le monde entier qui sera un jour donné en héritage à la descendance d'Abraham, aux croyants. Et il va nous montrer que pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, eh bien, le repos, le salut, la vie éternelle leur est offert. Donc on voit un accomplissement grandiose, tellement plus grand et formidable encore que celui qui était promis à Abraham. En Jésus, Dieu a pleinement accompli cette alliance. Mais il nous reste à répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Et on va finir avec cette question. Est-ce que c'est juste de considérer quelqu'un comme juste sur la base de sa foi et pas de ses actes? Vous vous souvenez ce verset 6? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Comment comprendre ce verset? Est-ce que c'est vraiment juste d'agir ainsi? Eh bien oui, c'est juste. Parce que comme on vient de le voir, c'est la justice de Christ, lui qui a mené une vie parfaite, toujours obéissant à la loi de Dieu, et qui a payé la conséquence de la désobéissance de l'homme à la croix, qui lui est donnée. C'est cette justice-là qui est donnée à Abraham. C'est la justice de Christ qui, par anticipation, est créditée à son compte parce qu'il a cru. Imaginez quelqu'un qui voit une maison magnifique, mais qui n'a pas les moyens de l'acheter. Il va voir le propriétaire, et là le propriétaire accepte qu'il habite la maison, après délibération. Comment est-ce possible? Eh bien parce que l'acheteur n'avait pas d'argent, mais il savait qu'un jour, un héritage allait arriver et pourrait payer entièrement la maison. Il a donc reçu par anticipation ce qu'un autre allait payer bien longtemps après. Imaginez ce juge qui libère le condamné par anticipation avant qu'il ne puisse payer sa peine, parce qu'il a la certitude que sa peine sera payée non par le condamné, mais par un autre en qui il a une confiance absolue, son propre fils. Et c'est ce qu'il se passe ici avec Abraham. Il reçoit par anticipation ce qu'un autre allait accomplir bien plus tard. Et c'est important de comprendre cela parce que Romains 4, entre autres, nous montre quelque chose d'important. On peut lire Romains 4, versets 23 à 25, peut-être qu'il va s'afficher aussi, je le lis. Or ce n'est pas pour lui, pour Abraham seulement, qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Donc nous aussi, nous sommes justifiés, considérés comme justes devant Dieu, non pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de notre foi. Mais alors, c'est quoi cette fameuse foi? Parce qu'on pourrait croire que c'est la certitude très forte que ce que Dieu promet, il nous le donne en Christ. Mais en même temps, on a vu au début qu'Abraham, eh bien, il a peur. Et nous aussi, on a vu des exemples dans lesquels on a peur. Alors qui peut espérer être sauvé par la foi? Qui a une foi suffisamment forte? Eh bien, chers amis, voilà le message libérateur de ce texte pour nous. Ce qui nous sauve, c'est de placer notre foi en Dieu et de croire en ses promesses. Mais ce n'est pas l'intensité, ce n'est pas la force de notre foi qui compte. Ce n'est pas la force de notre foi qui compte. C'est l'objet de notre foi. Ce n'est pas comment je crois, mais en quoi, en qui je crois. Et pourquoi je peux être sûr de ça? Eh bien parce que dans l'alliance qu'on vient de voir en Genèse 15, seul Dieu s'est engagé avec nous. Donc l'accomplissement de ses promesses ne dépend pas de la force de notre foi, mais de Dieu seul. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépendent que de lui. Je vous propose une dernière illustration avant de conclure. Une illustration qui a lieu lors de la première Pâque juive. Une illustration que j'ai lue il y a peu de temps. Imaginez deux hommes israélites, Nathan et Simon. La veille de la première Pâque, au pays de Goshen, ils ont l'échange suivant. Nathan dit à Simon, « Ça ne t'inquiète pas trop, toi, ce qui doit se produire ce soir ?» Simon répond, « Non, pas vraiment. Dieu nous a dit comment nous y préparer par son serviteur Moïse, donc pas besoin de s'en faire. Tu as bien immolé l'agneau ? Tu as bien pris de son sang ? Tu en as mis sur les deux montants et sur le linteau de la porte de ta maison ? Tu as l'intention de manger le repas de la Pâque en famille ? Tu es prêt pour le grand départ qui suivra ?» Nathan enchaîne. Évidemment que j'ai fait tout cela. Je suis pas bête à ce point, mais je stresse quand même un peu quand je pense à tout ce qui s'est produit ces derniers temps dans les environs. Les moustiques, l'eau changée en sang. C'est quand même terrible tout ça. Et à présent, cette nouvelle menace. Les fils premiers-nés qui risquent d'être tués. Pour toi, c'est pas la fin du monde. Tu en as trois des fils. Mais moi, j'en ai qu'un. Et tu sais combien j'aime mon petit Joseph. Ah, ce dixième fléau qui arrive. Je sais bien ce que Dieu a dit. Et j'ai badigeonné ma porte de sang, mais je ne peux m'empêcher de trembler, c'est plus fort que moi. Chose certaine, je me porterai bien mieux quand toute cette affaire sera derrière nous. Et Simon répond, « Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis plus que prêt et j'ai toute confiance dans les promesses de Dieu. » Et ce soir-là, l'Éternel traverse le pays pour frapper les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Mais qui perd son fils ? Nathan ou Simon ? La réponse, bien entendu, c'est aucun des deux. Pourquoi ? Parce qu'aucune famille israélite, cette nuit-là, n'a été épargnée de la mort sur la base de l'intensité ou de la clairvoyance de sa foi. Non, les familles israélites ont été épargnées sur la base du sang de l'agneau. Et de la même manière, aujourd'hui, nous sommes sauvés non pas par l'intensité de notre foi, mais plutôt par l'objet de notre foi. Jésus-Christ, l'agneau parfait offert pour nous. Quelle réalité formidable. Et ça, eh ben, ça détruit toutes nos fausses croyances qu'on peut avoir, même quand on est chrétien. Je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à paniquer quand ma foi vacille ou faiblit. Je me dis, ben Antoine, je sais que je suis sauvé par la foi seule, mais ma foi est en train de faiblir, je suis perdu. Si je suis sauvé par la foi seule et que je commence à perdre ma foi. Et quand je prends du recul sur ma vie, sur l'intensité de mes prières, sur l'efficacité de mon témoignage, sur les sentiments de jugement ou de comparaison qui me traversent, ou sur ma paresse, eh ben, je me pose des questions sur ma foi. Antoine, si tu es chrétien, tu as pour père le Dieu Tout-Puissant. Si c'est l'Esprit de Christ qui vit en toi, comment ça se fait que ta vie ressemble à ça ? Et là, il y a des peurs, il y a des doutes qui commencent à arriver dans ma tête. Et honnêtement, je peux vous dire que je ne vois parfois tellement pas la transformation ou l'œuvre de Dieu dans ma vie que je me pose la question de ma foi et de l'existence de Dieu. Parfois, je suis tenté de croire que ma vie chrétienne n'est que le fruit d'un effet psychologique ou d'une bonne éducation de mes parents chrétiens, mais ne repose sur aucun fondement objectif. Mais que se passe-t-il quand je lis ce texte de Genèse 15 ? Eh bien, je souffle, je respire et je suis rassuré. parce que je me retrouve dans Abraham. On se ressemble un peu, il a peur, il ne fait pas toujours confiance à Dieu, il pêche, et pourtant Dieu fait cette déclaration du verset 6. Il a confiance en l'Éternel qui le lui compte comme justice. Et Romains 4 m'affirme qu'il fait la même chose avec moi. Alors c'est une grande source de joie, de paix pour moi, d'être rassuré de cette manière. Ce n'est pas l'intensité de ma foi qui compte, mais bel et bien l'objet de ma foi. Alors voici ma prière à la fin de cette lecture, et je vous invite à la faire avec moi si vous le souhaitez. Je crois, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, parce qu'en fait, j'ai du mal à croire, je suis si faible. Je veux te faire confiance parce que je sais que l'accomplissement de tes promesses envers moi ne dépend pas de moi, mais de toi seul. Et ça me rassure, ça chasse mes peurs, ça m'enlève un poids de culpabilité immense. Quelle grâce, Seigneur. Et je sais que alors que tous ont péché et sont privés de ta gloire, nous sommes gratuitement déclarés justes par ta grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est toi que tu as destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et tu démontres ta justice de cette manière. Tu la démontres en étant juste, tout en déclarant juste ceux qui ont leur foi en Jésus. Alors merci pour cette réalité formidable, Seigneur. Et nous te prions dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.